Merci. Comme vous le voyez, l'acoustique n'est pas très bonne, mais on va faire avec. Donc, les marches européennes aujourd'hui fêtent les 10 ans de leur existence, et je voudrais, avant de rentrer sur deux problèmes politiques qui mériteraient peut-être qu'on y réfléchisse ensemble, rappeler deux choses qui ont été importantes dans l'histoire des marches. La première, c'est le lien entre les marches et les luttes sociales concrètes, en particulier celles des chômeurs et précaires. Et je voudrais simplement rappeler l'exemple français, mais aussi allemand, puisque les deux ont été très liés. L'exemple français et allemand du mouvement des chômeurs de l'hiver 97-98, dont nous fêtons aussi en ce moment les 10 ans, puisqu'ils ont commencé début décembre à Marseille, en particulier dans le sud de la France. Mais ce qui a été, en tout cas en France, je laisserai nos amis allemands dire ce qu'ils ont vécu, très important, c'est l'expérience accumulée par les marcheurs chômeurs et leur capacité d'utiliser l'expérience de la marche pour diriger le mouvement des chômeurs. Pour ceux qui, à l'époque, avaient été dans les marches européennes et regardaient la télévision pendant le mouvement des chômeurs, tous les jours, nous avions au journal télévisé nos amis des marches, qui étaient les porte-parole, qui dans le Nord, qui à Lyon, qui à Toulouse. Et cette capacité de militants chômeurs de prendre en charge leur propre mouvement et de le diriger a été, je pense, intimement liée à l'expérience qu'ils ont pu accumuler pendant les 2 mois de la marche européenne de 97. Deuxième chose à rappeler aussi, avant de venir aux deux problèmes politiques, c'est le fait que les marches européennes ont été un des cadres, pas le seul, loin de là, mais un des cadres qui a permis la constitution des contacts qui a donné naissance au mouvement altermondialiste et aux forums sociaux. Pour prendre quelques-uns de ceux qui sont dans la salle, la KCTU, le syndicat coréen bien connu, était à Amsterdam avec nous en 97 et ils étaient sur le podium à l'accueil des marches. Pour prendre la deuxième des marches européennes, celle de 99, celle qui a été à Cologne, le MST, le mouvement des sans-terre, avait envoyé une équipe de 2 personnes qui ont marché avec nous toute la longueur des marches, toute la durée des marches, et qui ont ainsi permis de créer un lien très fort avec ce qui se passait dans le cadre latino-américain et ce qui se passait chez nous en Europe. Et les contacts européens que nous avons tissés entre nous ont été pour beaucoup dans la constitution de l'arc de force qui a appelé aux manifestations de Gênes, d'abord en juillet 2001, puis à la constitution du Forum social européen dans la lignée et la foulée du Forum social mondial. Alors, il y a eu d'autres cadres à l'époque, l'Alliance hémisphérique en Amérique latine, des regroupements comme l'Alliance mondiale des peuples ou l'Action globale des peuples qui s'était créée en 1995 à Genève, d'autres de ce type, mais les marches ont fait partie de ces initiateurs qui ont permis la constitution des premiers réseaux d'avant-Seattle. Voilà donc les deux points un peu d'introduction que je voulais pointer, parce qu'elles situent l'intérêt de ce que nous avons fait dans les années 90 à l'aune, à la mesure de ces deux liens qui, à mon avis, sont décisifs, les luttes sociales d'un côté, mais aussi la constitution de ce mouvement mondial qui a émergé avec le Chiapas, puis avec Seattle. Les deux problèmes maintenant, mais c'est des choses qu'on va discuter, je pense, en permanence dans la journée, c'est d'abord pourquoi les marches européennes ne sont apparues que dans la décennie 90, alors que l'Union européenne avait déjà plus de 30 ans d'existence. Je pense qu'il y a eu un vrai tournant à la fin des années 80, début des années 90, sur 2 questions essentielles. Pas tant le chômage qui existait déjà avant dans de nombreux pays, je pense à l'Angleterre, mais aussi à la France et des tas d'autres pays, mais l'affaire des services publics, qui n'a pas touché directement au premier chef les chômeurs, mais qui très vite les a touchés, puisque les services publics, c'est ce qui protège les plus faibles d'entre nous, c'est ce qui donne un accès égal à tous aux droits. Et puis, avec la monnaie unique, l'euro et Maastricht, la constitution d'un ensemble monétaire et donc financier et économique qui a imposé des contraintes fortes sur les États et qui a été l'alibi utilisé par les États pour réduire les politiques sociales dans tous les pays européens. Et ça a marqué un vrai tournant, puisque l'approche sur les questions européennes avant le début des années 90 n'était pas la même du point de vue des mouvements sociaux. Certains étaient contre l'Europe pour des raisons idéologiques, Il y avait des mouvements forts dans le nord de l'Europe, en Scandinavie, parce que le modèle social scandinave était jugé meilleur que ce que nous proposait ou ce que leur proposait l'Europe. Mais l'essentiel du mouvement syndical, et je pense à Georges de Bune entre autres, avait soutenu en fait la Constitution européenne avec l'idée qu'après la guerre, il fallait trouver une réponse coordonnée et solidaire des peuples européens. Alors évidemment, l'Europe qu'ils ont constituée à l'époque n'était pas ce qu'ils entendaient, ce qu'ils voulaient, mais le tournant de la fin des années 80, début des années 90, a été un tournant radical. Et il nous a imposé de trouver les moyens de lutter ensemble au niveau du continent. On n'a pas été les tout premiers, c'est ceux qui aujourd'hui sont à Sudrail et qui à l'époque étaient à la CFDT cheminots, qui avaient commencé avec une grève des cheminots dès le début de la décennie 90, sur la défense des services publics. Mais on a été juste après avec l'ENU, le réseau européen des chômeurs, qui s'était aussi constitué à la fin des années 80, début des années 90. On a essayé de continuer ce qui avait été ouvert, tant par les cheminots que par l'ENU, en donnant un cadre de coordination entre mouvements sociaux, chômeurs, mais aussi syndicalistes et mouvements dits citoyens, pour employer la formule française. Mais ça mérite qu'on s'y arrête pour comprendre aujourd'hui quelle est l'étape dans le développement néolibéral de l'Union européenne et quelles sont les échéances devant nous, mais je ne vais pas être plus long pour ne pas monopoliser la parole. Le deuxième problème politique que je voulais soulever a été un peu compliqué pour les marches à la fin de la décennie 90. Si vous vous rappelez, en 97, les marches ont été probablement la première manifestation européenne réellement internationale, hein, puisque les syndicats en avaient fait un peu, mais qui étaient moins coordonnés et moins liés intimement que nous ne pouvions l'être à travers les marches. Mais dès 99, au moment de la deuxième marche des chômeurs, on s'est retrouvé à Cologne avec une situation étonnante, puisqu'il y avait en fait deux manifestations à 15 jours d'intervalle. Nous étions là avec les mouvements sociaux, les mouvements de chômeurs, pour le premier des sommets de Cologne, celui de l'Union européenne, et nous avons réuni plus de 30 000 personnes. Mais quelques semaines plus tard, 15 jours si mes souvenirs sont bons, il y avait le G8 qui se tenait dans la même ville, et des militants surtout issus d'ONG étaient en train de constituer un cadre de mobilisation qui allait lui aussi être très important dans les forums sociaux et le mouvement altermondialiste. Et on a eu à l'époque des vraies interrogations. Des interrogations de trois natures. La première était de savoir si on arriverait, parce qu'on sentait bien la montée de ce mouvement mondial, à conserver un axe spécifique sur les questions européennes. Pour tout vous dire, je crois qu'on a un peu perdu cette bataille au tout début des années 2000, avec Gênes, avec les forums sociaux, puisque là c'est clairement l'échelon monde qui était dominant et qui nous a mobilisés. Mais avec le référendum et la charte dans laquelle les marches sont très impliquées, je pense qu'on est en train de retrouver ce chemin qui est celui d'une articulation entre une mobilisation mondiale et une mobilisation européenne. On avait un deuxième problème qui a été, lui, vite réglé, mais qui nous inquiétait en 99. C'est que les ONG n'ont pas la même histoire que les mouvements sociaux. Surtout dans la décennie 90, où pour beaucoup d'ONG, la mondialisation et la chute de l'Union soviétique étaient des choses positives. N'oubliez pas qu'à Rio de Janeiro, il y avait autour de l'idée de la gouvernance mondiale une espèce d'alliance entre l'ONU d'un côté et des ONG qui concevaient leur mobilisation comme un appui à ces institutions internationales. Et donc on avait un peu peur d'une mobilisation monde qui soit en fait, le terme réformiste n'est pas forcément le bon terme, mais en fait extrêmement modérée et qui s'inscrive en fait dans le chemin des institutions internationales plus que dans la contestation de ces institutions. Mais là, l'affaire a été vite réglée, puisque c'est ceux de Seattle qui ont montré qu'on pouvait à la fois être au niveau mondial contre l'OMC et radical dans les formes d'action et dans les thèmes qu'ils portaient. Et je pense que le fait que les marches se soient inscrites tant à Nice que plus tard à Gênes dans ce mouvement-là correspondait au fait que le tournant de Seattle avait été bien accepté par nous tous. Mais il restait malgré tout un troisième problème. Et je pense que celui-là, nous ne l'avons toujours pas résolu. C'est celui de la place des précaires et des chômeurs dans ce mouvement mondial. Il n'est pas résolu parce que la couleur, d'une certaine façon, d'une mobilisation est portée par ceux qui l'initient, qui en sont à la tête, qui sont les premiers à l'exprimer. Et Seattle, c'était avant tout un mouvement étudiant blanc, au point que un des premiers textes critiques sur Seattle était en anglais « Where was the color in Seattle ?»« Où était la couleur à Seattle ?» puisqu'il n'y avait ni noirs, ni chicanos, et très peu d'asiatiques. Et cette difficulté à faire percer la question sociale dans le mouvement altermondialiste a été une question lancinante pour nous tous pendant toutes les années des forums sociaux et des grandes manifestations à Gênes, à Prague ou même jusqu'à Évian et récemment encore à Rostock en Allemagne. Donc il y a là un enjeu qui nous revient, mais pas qu'à nous, qui revient aussi à des réseaux comme l'ENU qui est ici et qui je crois peut jouer un rôle important, qui revient aussi à Novox qui a été constitué dans toute une série de pays, entre autres avec les militants du DAL et d'autres associations et dans lesquelles on se retrouve aussi, pour pouvoir faire qu'un pôle et un axe important dans ce mouvement mondial expriment réellement les questions sociales et pour ce qui nous intéresse ici, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le chômage, la précarité et les exclusions. Voilà à mon avis quels sont les enjeux qu'il va nous falloir discuter et affronter, mais qui donnent un cadre intéressant puisqu'on est dans un réseau et dans un mouvement qui nous dépasse largement et qui a une énergie tout à fait considérable comme on a pu tous le voir dans les forums sociaux et les manifestations. Je vous remercie de votre attention. Thank you.